France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. L'Ukraine, 4 ans après l'invasion russe, la guerre menace aussi les installations nucléaires du pays. Dans ce journal, reportage près de la centrale de Tchernobyl. Pendant ce temps-là, à Bruxelles, la Hongrie s'oppose aux nouvelles sanctions européennes contre la Russie. Viktor Orban, en campagne pour sa réélection, réclame le retour du pétrole russe dans son pays. Le spectre de la guerre civile au Mexique après la mort d'El Mencho, l'un des plus gros barons mexicains de la drogue. Ses partisans multiplient les violences. Le gouvernement mexicain a envoyé des renforts militaires. En France, audition à huis clos pour Rachida Dati devant la commission d'enquête parlementaire sur la sécurité dans les musées. La ministre de la Culture, déjà en campagne pour les municipales à Paris, d'où ce huis clos qui fait polémique. Explication à suivre avec Pierre Robert. L'Ukraine est donc à la veille d'un anniversaire terrible. Il y a 4 ans, le 24 février 2022, la Russie de Vladimir Poutine envahissait son voisin, coupable aux yeux de Moscou d'avoir entamé un spectaculaire rapprochement avec l'Union européenne. La Russie contrôle aujourd'hui environ 20% du territoire ukrainien, mais Kiev résiste à l'envahisseur. Le front ne s'est pas écroulé. L'Ukraine en guerre, qui abrite la plus grande centrale nucléaire d'Europe, celle de Zaporijjia, et qui reste traumatisée par la catastrophe de Tchernobyl. Pour comprendre la menace qui pèse sur la population, nos envoyés spéciaux se sont rendus à Slavoutitch, une ville construite pour reloger les employés de la centrale de Tchernobyl après l'explosion du réacteur numéro 4 il y a 40 ans. À l'entrée de la zone interdite, nous retrouvons Claude Guibal, Marc Garvenès et Yachar Fazilov.
Des avenues larges et vides, mangées par la neige, bordées par des barres d'immeubles au pur style soviétique, Anatoli est un ancien liquidateur, un de ces ouvriers chargés de sécuriser la centrale immédiatement après l'accident en 1986.
On voyait des hélicoptères voler. Les gens allaient voir de plus près, à vélo, à pied. On ne savait pas.
À Slavoutitch, toutes les familles sont liées à Tchernobyl. Alors ici, plus qu'ailleurs, tout le monde s'est pétrifié il y a 4 ans en apprenant que les Russes étaient entrés dans la centrale où se trouvent encore 2 unités de stockage de combustible nucléaire usé qu'il faut refroidir constamment. Svetlana, employée à la centrale, a compris le danger.
S'il n'y a pas d'électricité, tout peut exploser, le combustible, tout.
L'an dernier, une attaque de drone a provoqué un incendie sur l'arche et Yevhen, qui a travaillé sur le sarcophage, a tremblé. On lui demande si un plan d'évacuation est prévu.
J'ai une voiture, un sac d'urgence, de l'iode. Si cela devient grave, je monte en voiture et je pars chez ma mère, à Dnipro.
Mais tout près de Dnipro se trouve Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, occupée par les troupes russes. La centrale est à l'arrêt, mais le processus nucléaire continue, explique Yevhen. Avec 6 réacteurs, une panne d'électricité prolongée mènerait, dit-il, à une apocalypse.
Claude Guibal, Marc Garvenès et Yachar Fazilov, envoyés spéciaux de France Culture dans la région de Tchernobyl. Face à la Russie, l'Ukraine peut compter sur le soutien de l'Union européenne en première ligne dans l'aide militaire à Kiev, après le désengagement américain opéré par Donald Trump. Mais au sein de l'UE, la Hongrie de Viktor Orban a choisi son camp. Elle préfère ménager Moscou. Budapest a confirmé aujourd'hui son intention de bloquer le 20e paquet de sanctions économiques contre la Russie. Officiellement, la Hongrie conteste la suspension des livraisons de pétrole russe via un oléoduc qui traverse l'Ukraine. Face à la détermination du Premier ministre hongrois, ses partenaires européens affichent un front uni. Le reportage à Bruxelles de Fabien Cazot.
Cocarde bleue et jaune à la boutonnière, en signe de soutien à l'Ukraine, les ministres européens des Affaires étrangères tenaient à envoyer un message d'unité aujourd'hui depuis Bruxelles. Quasiment tous ont joué le jeu, mais pas le ministre hongrois qui, lui, a choisi de s'opposer au 20e paquet de sanctions contre la Russie. Le ministre français Jean-Noël Barrot ne compte pas en rester là.
La question n'est pas de savoir si le 20e paquet de sanctions sera adopté, il le sera, c'est une certitude. La question est de savoir quand il le sera, il viendra s'ajouter à un grand nombre de sanctions qui pèsent aujourd'hui sur les ressources que Vladimir Poutine engouffre dans son effort de guerre.
Le ministre polonais Radoslaw Sikorski renchérit, n'hésitant pas pour sa part à convoquer l'histoire.
Ce qui me choque profondément, c'est que l'Ukraine se défend contre l'armée russe alors que la Hongrie a elle aussi été envahie par l'armée rouge au XXe siècle. Les Hongrois savent ce que c'est. Je me serais attendu à plus de solidarité de leur part envers l'Ukraine.
La Hongrie se montre d'autant plus inflexible aujourd'hui à Bruxelles que son premier ministre nationaliste, Viktor Orban, est en campagne pour sa réélection dans 2 mois, bien décidé à flatter la fibre eurosceptique de sa base électorale.
Fabien Cazot, correspondant à Bruxelles. Alors qu'il n'y a à ce jour aucun espoir de cesser le feu rapide en Ukraine, la reconstruction du pays est d'ores et déjà estimée à plus de 500 milliards d'euros, un chiffre qui figure dans un rapport rédigé conjointement par les autorités ukrainiennes, l'Union européenne, l'ONU et la Banque mondiale. Les besoins les plus importants se concentrent dans les transports, le secteur énergétique et le logement. Au Mexique, la violence qui embrase le pays depuis hier prend des allures de guerre civile. Le gouvernement mexicain a envoyé l'armée dans l'ouest du pays face aux représailles lancées par le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Tout a commencé hier avec la mort du chef du cartel, Nemesio Osegura, alias El Mencho, tué dans une opération militaire. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, appelle au calme. Le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. On fait le point avec Gwendolina Duval à Mexico.
25 membres de la garde nationale ont perdu la vie lors des affrontements contre le cartel dimanche. Une femme civile a également été tuée en marge des opérations. Au total, le gouvernement fait état de l'arrestation de 70 individus liés aux attaques et aux incendies. Une vingtaine d'États mexicains ont été affectés par les blocages. L'État de Jalisco, situé à l'ouest du Mexique, est l'épicentre de cette crise. Les villes de Guadalajara et la cité balnéaire de Puerto Vallarta sont toujours en alerte rouge. Des centaines de touristes, notamment venant des États-Unis ou du Canada, disent qu'ils se sont retrouvés bloqués après l'annulation de leur vol. Les habitants, quant à eux, sont confinés, les transports étant suspendus, tout comme les écoles restées closes ce lundi. Toutes les activités sont à l'arrêt, les commerces sont fermés depuis hier, mais le gouvernement se veut rassurant. Ce matin, la présidente Claudia Sheinbaum affirmait que la situation revenait peu à peu à la normale.
Toutes les routes sont libres aujourd'hui, il n'y a plus de problème, on peut circuler. Le centre de commande de l'opération est maintenu dans tous les cas. Il y a toujours des vols suspendus de manière préventive par des compagnies aériennes, principalement à Puerto Vallarta, mais on espère que les vols soient rétablis aujourd'hui ou demain au plus tard.
Le secrétariat de la défense mexicaine a annoncé envoyer 2500 soldats supplémentaires dans l'état de Jalisco, en plus des 7000 déjà sur place pour renforcer la sécurité et rétablir durablement le calme.
Gwendolina Duval, correspondante au Mexique. La France a appelé hier soir ses ressortissants présents dans l'état du Jalisco à rester à l'abri et à limiter tout déplacement non essentiel, selon les recommandations publiées sur le site du ministère des Affaires étrangères. Des libérations au compte-gouttes au Venezuela, malgré la loi d'amnistie récemment promulguée sous la pression des États-Unis. Seuls 65 prisonniers politiques ont été libérés d'après un décompte de l'ONG vénézuélienne Foro Penal. Le président du Parlement avait pourtant affirmé samedi que 1500 prisonniers avaient demandé leur libération. La tendance reste cependant positive pour l'Union européenne. Kaya Kallas, la chef de la diplomatie de l'UE, va proposer la levée des sanctions européennes contre la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez, qui avait succédé à Nicolas Maduro, capturé par les États-Unis. Les étudiants de Sciences Po Lyon ont repris les cours aujourd'hui après leur congé d'hiver et surtout après le lynchage mortel de Quentin Derenque. Le militant identitaire a été tué le 12 février dernier en marge d'une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan à l'Institut d'études politiques. 7 personnes liées à l'ultra-gauche ont été mises en examen dans cette affaire, dont 2 assistants du député insoumis Raphaël Arnaud, fondateur du mouvement dissous La Jeune Garde. Pour cette reprise des cours à Sciences Po Lyon, la sécurité a été renforcé dans une atmosphère lourde. C'est un reportage de Matina Berti.
Plusieurs agents de sécurité postés dans les locaux, la carte d'étudiant à présenter systématiquement. La directrice, durant les vacances, a envoyé un mail aux étudiants pour détailler les mesures prises, rassurant pour cette jeune fille de 22 ans en 4e année.
Ce qui est bien, c'est qu'ils contrôlent l'entrée, ils contrôlent nos cartes, nos sacs, donc on sait qu'il n'y a pas n'importe qui va rentrer dans le bâtiment. Moi, j'étais un peu inquiète, en vérité. Mais après, ça n'a pas nous empêché d'aller en cours. Enfin, nous, on fait nos études, point.
Et c'est aussi l'appréhension des proches qui s'est exprimée en cette rentrée.
Assez stressée, surtout que mes parents, à la base, ils ne voulaient pas que je retourne à Lyon. Parce que, voilà, avec tout ce qu'on a pu potentiellement lire sur les réseaux sociaux, ça ne les rassurait pas forcément. Mais bon, moi, j'ai tenu à retourner parce que je sais que j'ai rien à me reprocher, en tout cas.
Cet étudiant assistait jeudi 12 février à la conférence de Rima Hassan. Depuis, dit-il, comme l'une de ses amies, c'est une déferlante anti-Sciences Po sur les réseaux.
Je suis élue étudiante et on m'a fait remonter soit l'administration qui a passé la semaine à recevoir des appels de menaces, aller sur Twitter, regarder, il y a des menaces sur la directrice. On dit n'importe quoi, ça traite les étudiants comme si on soutenait des terroristes, etc. Alors qu'on va à une conférence sur les réseaux sociaux, il y a eu plein d'étudiants, il y a eu leur tête, alors que c'est juste des étudiants qui sont allés à une conférence, leur tête a été affichée, donc aussi il y a des pressions qui sont énormes, et nous on veut rappeler qu'on est dans un institut d'études politiques, qu'il y a des conférences politiques de tous les bords, enfin je veux dire, on arrive à des stades qui sont quand même assez fous, donc il faudrait aussi remettre les choses à leur place, je pense que c'est très important.
Leur crainte que la liberté d'expression, celle d'inviter des interlocuteurs de tous bords politiques soit à terme mise à mal.
Oui, parce qu'avec ce qu'a potentiellement dit le ministre de l'enseignement supérieur, qui a dit que les réconférences, etc., ça serait terminé. Je ne vois pas l'intérêt d'interdire ces conférences, parce que déjà, c'est pluriel. On accueille toutes les orientations politiques, de droite comme de gauche. Et puis surtout, le problème, c'est ni les étudiants, ni les invités politiques qui viennent à Sciences Po, en fait.
En dehors des mesures de sécurité, une cellule d'écoute est également mise en place à Sciences Po Lyon.
Le reportage à Sciences Po Lyon de Mathilde Imberti. Un nouvel épisode dans la crise au Louvre après le cambriolage du mois d'octobre et les déboires qui se multiplient dans le plus grand musée du monde. La ministre de la Culture, Rachida Dati, est auditionnée cet après-midi à l'Assemblée par la commission d'enquête sur la sécurité dans les musées. Une audition à huis clos, sans retransmission ni journaliste, alors qu'elle devait être initialement publique. Bonsoir Pierre Robert.
Bonsoir.
Officiellement, l'objectif de ce huis clos est d'éviter toute interférence entre la fonction ministérielle de Rachida Dati et sa candidature à la mairie de Paris, alors que la période de réserve précédant les élections municipales a débuté hier pour le gouvernement, Pierre.
Oui, cette audition devait porter pour Rachida Dati sur sa gestion de la crise au Louvre, une crise qui n'en finit plus depuis le cambriolage, s'y sont ajoutées une grève du personnel, des fuites d'eau et un scandale de fraude à la billetterie. Cette audition devait donc être à l'occasion d'interroger la ministre de la Culture sur l'efficacité de la tutelle ministérielle dans la gestion du musée. La semaine dernière encore, son président, le député Les Républicains Alexandre Portier, a critiqué le manque de contrôle des pouvoirs publics sur un musée devenu, selon lui, un État dans l'État. Cet après-midi, les réponses de la ministre aux questions des députés étaient donc très attendues, mais elles se sont finalement faites loin des regards. Les services de l'Assemblée nationale ont fait savoir que la commission se tiendrait à huis clos.
Et comment cette décision a-t-elle été justifiée ?
Eh bien, du côté de la présidence de la commission, on explique ce report par le télescopage avec les municipales. Rachida Dati, candidate Les Républicains à la mairie de Paris, soutenue par le Modem, n'a toujours pas quitté son poste de ministre de la Culture, contrairement à ce qu'elle avait annoncé. La crainte, selon le ministre de la Commission, c'est donc de voir, selon le président de la Commission, pardon, c'est donc de voir son audition transformée en politique spectacle, à l'image de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, où les débordements s'accumulent. Il souhaite, je cite, une audition apaisée qui permette de rester sur le fond de notre enquête, comme il l'a indiqué à l'AFP.
Mais cette décision, Pierre, ne fait pas l'unanimité au sein de la Commission des affaires culturelles.
Non, effectivement, cette décision n'est pas du goût de tous, et notamment de la vice-présidente de la commission, la députée écologiste Sophie Taillé-Polian. Elle dénonce un huis clos incompréhensible. Pour elle, la ministre de la Culture doit pouvoir, je cite, « s'expliquer en toute transparence ». Cette décision a d'autant moins de sens, selon elle, qu'il n'y a jamais eu aucun problème de sérénité des débats jusqu'ici. Autre vice-présidente de la commission, la députée du mouvement démocrate Delphine Lingemann, juge de son côté que le huis clos permet d'aborder des sujets plus confidentiels. Mais pour elle, il doit désormais s'appliquer, par souci de logique, à l'audition à venir mercredi de la présidente du Louvre, Laurence Descartes, et tant pis donc si cette dernière ne brigue pas de mandat à la mairie de Paris. Enfin, le rapporteur de la commission, Alexis Corbière, a lui souhaité un compte-rendu écrit disponible pour le public le plus rapidement possible.
Pierre Robert, merci pour ces explications. Amélie de Montchalin, nouvelle première présidente de la Cour des comptes, va s'abstenir de participer au débat sur les finances publiques 2025. C'est ce qu'annonce l'institution dans un communiqué. L'ancienne ministre des comptes publics a pris ses nouvelles fonctions aujourd'hui au sujet du budget 2026 qu'a élaboré Amélie de Montchalin en tant que ministre. Aucune annonce n'a été faite par la Cour des comptes. Dans l'actualité économique, un constat encourageant ce soir. La féminisation des grandes entreprises progresse selon le dernier baromètre annuel de l'observatoire Schema. Il y avait en 2025 près de 29% de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises du CAC 40. C'est 9,5 points de plus qu'en 2021. Bonsoir Lola Salamand.
Bonsoir.
Cette progression est une conséquence de la loi Rixin, un texte de décembre 2021 qui impose aux entreprises de plus de 1000 salariés salariés, des quotas de femmes dirigeantes, 30% au 1er mars prochain, 40% en 2029.
Oui, la France est désormais le 4e pays européen pour la féminisation des instances dirigeantes, selon la députée Marie-Pierre Rixin, à l'origine de la loi. Certains grands groupes ont largement dépassé déjà la barre des 30%. C'est le cas, par exemple, de la banque BNP Paribas, passée de 3 femmes dans son comité exécutif en 2020 à 7 aujourd'hui, pour 12 hommes, soit une part féminine de 37%. Pour les défenseurs de la loi Rixin, l'effet est doublement bénéfique. Féminiser le sommet permet d'attirer des talents plus bas dans l'organigramme, puisqu'au moment de candidater, les femmes vont ainsi voir leur potentiel de progression dans les plus hautes instances.
Mais d'un autre côté, Lola, cette féminisation est à nuancer.
Oui, il n'y a toujours aucune femme PDG d'une entreprise du CAC 40 et elle n'occupe que 6 des 80 postes de président ou directeur général. Actuellement, une entreprise du CAC 40 n'a même aucune femme dans ses plus hautes instances, et si l'or Luxottica, spécialisée dans les lunettes de vue, d'une certaine façon, la polarisation des grandes entreprises du CAC 40 s'accentue, avec des entreprises aux effectifs de plus en plus féminins et d'autres de plus en plus masculins. Par ailleurs, d'autres quotas de féminisation existent en France pour d'autres postes au sein des entreprises. La loi Copé-Zimmermann, par exemple, en a instauré en 2011 pour les conseils d'administration. Ceux-là sont largement respectés aujourd'hui, puisque 46% des administrateurs du CAC 40 étaient des femmes en 2025.
Décryptage signé Lola Salaman. La situation s'améliore ce soir sur le front des inondations, même si 3 départements sont toujours en vigilance rouge, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. Et il reste également 2 départements en vigilance orange, la Charente et la Sarthe. Et il reste que l'amélioration est lente, notamment à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Après plusieurs jours de crue, l'eau a commencé à se retirer dans certains villages et c'est l'heure du nettoyage. Sur place, le reportage de Rémi Brancato et Lucien Lefebvre.
Dans ce hameau de Coussan, en bord de Garonne, en zone inondable, une trentaine de bénévoles et 10 agents de la ville débarquent chez Eugénie Merlet et son mari, tous deux septuagénaires.
Est-ce que vous voulez qu'on amène les sacs là-bas ?
Si vous voulez, mais ils sont lourds parce que j'ai sorti les pâtes, le riz.
Alors là, l'eau, elle est montée.
Bernard, où c'est qu'elle est montée, l'eau, là ? Dis-leur.
Elle est montée là. Au pied de l'établi, quoi. Vous aviez monté le congélateur à l'étage ?
Juste là où est mon mari, là. Juste là, on n'a pas pu le monter plus haut.
Alors les bénévoles aident à remettre les meubles en place.
Ça fait quelque chose de les voir comme ça, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être comme ça, entouré et tout.
Un peu plus loin, Grégory vient donner de son temps dans un autre jardin. Un pin s'est effondré, l'eau est encore tout près.
J'ai vu hier sur Facebook que la ville maman cherchait des volontaires. J'ai dit à mon copain, viens, on va les aider. On l'aide à retirer les branches et puis après, bon, je pense qu'on va nettoyer la maison, quoi.
Les bénévoles dégagent la boue du garage de Patricia, une voisine.
C'est vraiment formidable ce qu'ils font, je tiens à les féliciter. Ça a été assez éprouvant parce que on voyait que ça montait, puis on ne peut rien faire dans ces cas-là, évidemment.
Vous n'avez pas voulu partir ?
Non.
2 camionnettes évacuent les déchets, le porte-à-porte se poursuit.
Voilà pour ce reportage de Rémi Brancato. Alors que la douceur s'installe en France, aux États-Unis, c'est une tempête de neige exceptionnelle qui frappe le nord-est du pays. Un événement particulièrement spectaculaire à New York, la mégapole est littéralement paralysée aujourd'hui. Des centaines de milliers de foyers sont privés d'électricité. C'est une correspondance de Franck Madvon.
Aujourd'hui à New York, on peut marcher au milieu de la chaussée, si on est bien équipé. Toutes les routes sont fermées à la circulation, jusqu'à la mi-journée heure américaine, sauf pour les trajets jugés essentiels. Le maire Zoran Mamdani a aussi annoncé la fermeture de toutes les écoles, sans cours à distance. Beaucoup de travailleurs sont sommés de rester chez eux. C'est le cas par exemple des employés des Nations Unies, où toutes les réunions sont reportées. À la fin de la journée, il aura neigé plus de 60 cm en ville. Situation exceptionnelle à New York donc, mais pas seulement. 7 États ont déclaré l'état d'urgence. Près de 40 millions d'Américains sont concernés par ces rudes conditions météo dans le nord-est, en gros de Washington à Boston. La neige est accompagnée d'un blizzard glacial et d'une brume épaisse dans beaucoup de régions. La tempête entraîne le chaos sur les routes, l'annulation de milliers de vols et des coupures de courant pour 300 à 400 000 foyers. Mais le soleil et des températures positives seront de retour dès mercredi.
Neige à New York et atmosphère printanière en France. Le temps s'améliore progressivement demain sur l'Hexagone, mais la grisaille restera tenace une bonne partie de la journée sur la moitié nord. Le soleil finira par s'imposer sur de nombreuses régions. Les températures minimales iront de 1 à 11 degrés en général. L'après-midi, le thermomètre s'envole entre 13 et 25 degrés du nord au sud. C'est en Aquitaine et dans le Languedoc-Roussillon qu'il fera le plus chaud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique, Grégory Wallon.